Là, on va parler un peu de Hannah Arendt. Hannah Arendt, elle écrit surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et son livre, le livre qui nous intéresse en particulier, enfin il y en a deux là, c'est « La condition de l'homme moderne » qui est publié en 1961. Et un autre qui s'appelle « Qu'est-ce que la politique ?» qui est plutôt un regroupement de fragments d'Hannah Arendt, donc c'est pas un vrai livre d'elle, disons. Arendt, en réfléchissant sur la modernité occidentale, enfin, elle réfléchit à la modernité occidentale au XXe siècle et à la condition humaine après la Deuxième Guerre mondiale. Et en particulier, elle réfléchit à partir du totalitarisme, des phénomènes totalitaires. Elle fait partie des gens qui analysent, par ce terme commun, totalitarisme, le nazisme et le stalinisme. Ce qui n'est pas sans poser de problème, qui a fait beaucoup de débats dans l'ultra-gauche en France, mais peu importe. On part d'elle. Et elle produit une critique des catégories de la modernité dont elle estime qu'elles sont responsables en partie du totalitarisme. Un des points les plus importants qu'elle développe, notamment dans « Qu'est-ce que la politique ?», c'est l'idée selon laquelle la catégorie du travail, et donc du faire, de la fabrication, de la production, est devenue hégémonique, même pour penser la politique. Donc ça veut dire que le travail est devenu non seulement la forme d'activité, disons, sociale hégémonique, mais ça se répand même sur les questions politiques qui sont aussi pensées à partir du faire, de la production. Et donc évidemment, on retrouve là ce sur quoi Camille s'était arrêté, l'idée qu'on fabrique de la communauté. Et vous voyez, à chaque fois dans le schéma, elle l'a noté, il y a le philosophe roi qui fabrique de la cité, le législateur qui fabrique du peuple, le parti qui fabrique de la classe. Et à chaque fois, il y a ce lien-là qui est comme un... J'insistais au départ sur le modèle artisanal, et il y a on pourrait dire un paradigme artisanal ou productif pour penser la politique. Et donc, Arendt, elle dit... La catégorie du faire et du travail, elle est devenue hégémonique, mais sa critique, elle se cantonne pas au moment où elle vit, la société à la fois de consommation et du travail de masse et du XXe siècle et le capitalisme un peu qui explose, etc. Mais elle remonte aux Grecs et notamment à Platon, dont on a parlé tout à l'heure. Arendt, elle dit, Platon, il a conçu la politique comme un acte de fabrication, un acte artisanal, où le philosophe roi, c'est l'artisan, les lois et les gardiens de la cité, c'est les outils, et le peuple, c'est la matière. Et donc, elle retrouve ce schéma-là dans plusieurs œuvres de Platon, qui lui sert aussi à Platon à penser le monde, comme elle disait Camille, sous la figure du démiurge qui, c'est dans le Timée de Platon, le démiurge a les yeux fixés sur un modèle idéal et vraiment il façonne le monde. Comme c'est un dieu artisan. Et elle voit dans le totalitarisme, et c'est là qu'elle fait une analogie entre les différents... elle les met sur le même plan, les différents totalitarismes. Elle voit cette même ambition démiurgique. Elle dit, ce qui s'exprime là-dedans, c'est une volonté de construire l'humanité, de façonner un homme nouveau. Et de construire aussi un peuple de toutes pièces. Comme si on pouvait faire sur le peuple et les humains... toutes les expériences possibles, comme s'il était une pure matière, purement malléable. Bon, évidemment, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Rousseau, où pour construire un peuple, c'est toujours plus facile de détruire que de construire. Donc en fait, dans le fabriquer un peuple, il faut aussi entendre, en partie, détruire ce qui est autour, ou en tout cas ce qui permet de faire ressortir un peuple homogène. Évidemment, chez les nazis, c'est évident, que la fabrication d'un ennemi et l'éradication du peuple juif fait partie intégrante du projet, disons, identitaire et nazi, etc. Ainsi que toutes les expériences sur les êtres humains, de la médecine nazie dans les camps, etc., montrent qu'il y a vraiment cette idée-là que l'humain, c'est de la chair avant tout, quoi. C'est de la matière humaine dont on peut faire à peu près ce qu'on veut pour essayer de façonner un homme nouveau. Bon, évidemment, selon elle, il faut partir d'ailleurs pour penser la politique. Il ne faut pas supposer des êtres humains bêtes et enchaînés, soit dans l'obscurité d'une caverne ici, soit une multitude aveugle, comme vous l'aviez dans la citation de Rousseau, dans le contrat social. Il faut partir au contraire de ce que font des hommes, des êtres humains, quand ils sont ensemble. Il faut partir d'une description de ce qu'est, selon elle, l'action politique. Et elle, en un sens, elle présuppose très peu de choses. Elle dit, ça c'est au tout début de « Qu'est-ce que la politique ?» Elle dit, en fait, il y a de la politique quand il y a des êtres humains qui sont mis côte à côte. Et la politique, à la limite, on ne peut pas la définir comme, je ne sais pas moi, cette activité qui serait là au-dessus ou un savoir qui serait en dehors de cet espace-là. Parce que la politique, c'est ce qui circule entre les corps. C'est ce qui fait que... c'est ce qui existe quand des êtres humains sont ensemble. Donc il y a une première définition à la rigueur très simple comme ça de la politique. Bon, pour bien comprendre ça, je reviens un tout petit peu sur la pensée d'Hannah Arendt dans la condition de l'homme moderne en faisant un très rapide tableau. Parce que c'est pas là-dedans qu'on veut rentrer, mais de ce qu'elle estime être les catégories essentielles principales de l'activité humaine. Elle dit la philosophie a souvent distingué entre une vie active et une vie contemplative. Bon, la vie contemplative, ça a à voir avec la philosophie, etc. Et l'erreur, c'était de croire que de la vie contemplative, on pouvait déduire une vie active, et notamment dans ce lien entre le philosophe qui contemple et qui ensuite fait la politique. Elle dit non, en fait, dans la vie active, il y a toutes les catégories pour penser l'ensemble des activités humaines. Et du coup, la place de la contemplation, elle est un peu à part chez elle. On ne reviendra pas là-dessus. Et donc, elle en énumère trois des catégories de la vie active. Le travail, l'œuvre et l'action. Je parle rapidement du travail et de l'œuvre et on va s'arrêter un peu plus sur l'action. Le travail, c'est ce qui a pour objet la reproduction de la vie. On travaille pour manger, pour se vêtir, pour construire les conditions mêmes de possibilité de la vie. Alors soit directement, je travaille pour cultiver un champ et un potager qui me permet de manger. Soit indirectement, aujourd'hui, je travaille, et ça fait partie du problème, pour gagner de l'argent qui, lui, me permet ensuite de manger, etc. C'est une affaire, pour Hannah Arendt, c'est une affaire qui doit être complètement privée. Ça nous regarde de manière individuelle, privée, éventuellement familiale. En tout cas, c'est pas une histoire publique. L'œuvre, on pourrait dire qu'elle est à mi-chemin entre le privé et le public. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit aussi de produire, de fabriquer quelque chose, mais qui ne soit pas directement consommé. Là où le travail produit des choses qui sont censées être quasiment consommées dans la foulée de la production. Son modèle pour penser ça, c'est vraiment la nourriture. On produit la subsistance qu'il faut pour, par exemple, se nourrir, on la consomme immédiatement, il faut de nouveau la reproduire tous les jours. Et donc c'est une tâche infinie, qui se calque, si vous voulez, sur le cycle de la vie, un peu. La vie consomme en permanence quelque chose, et il lui faut produire ce qu'elle consomme un peu à l'infini. L'œuvre, elle s'extirpe un peu de cette espèce de spirale infinie de la production-consommation, si on veut, puisque qu'il s'agisse des œuvres d'art, ou d'autres choses, elle parle parfois de la table, des tables ou de l'architecture, des maisons comme des œuvres. elle dit, c'est des choses qui n'ont pas vocation à être consommées immédiatement, à être ingérées, à être détruites, en fait. Et donc à être de nouveau produites le lendemain. Elles ont vocation, au contraire, à durer, et donc à construire un monde. Et donc, chez Hannah Arendt, l'idée, le concept de monde vient en grande partie de cette notion-là de l'œuvre. L'œuvre, c'est ce qui permet d'édifier un monde qui dure après notre mort. Le travail, il s'arrête. Quand on meurt, on arrête de produire pour manger, etc. Par contre, les œuvres qu'on a construites et celles des autres restent. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on peut penser quelque chose pour elle comme la finitude, comme la mort. C'est qu'il y a quelque chose d'autre qui dure. En gros, s'il fallait penser la mort comme l'arrêt instantané de l'ensemble de ce qui existe, eh ben, on n'aurait plus du tout la même expérience et la même pensée de la mort, disons. Bon, je n'approfondis pas tout ça. Et donc, la dernière catégorie que pense Arendt, c'est l'action. L'action, elle a de sens, selon elle, qu'en public. Alors que le travail, c'était vraiment une affaire privée, l'œuvre, on pouvait dire que c'est à mi-chemin, puisque c'est quand même quelque chose qui reste au-delà de nous et qui permet d'édifier un monde, et donc un monde en ce qu'il a de commun.
Ouais. Moi, je comprends pas ce que ça veut dire que le travail, c'est à l'affaire privée.
Ben,
au sens où elle décrit pas sa... Enfin, je veux dire, si elle avait vécu dans une société agraire où les... Bref, tu vois, où la subsistance est organisée en famille, je comprendrais, mais ça, je comprends pas de quoi il s'agit.
Ben alors, pour donner un exemple qu'elle, elle donne, et qui est très... complètement anachronique, en fait, mais qui révèle aussi sur quoi Hannah Arendt se fonde et se base beaucoup pour faire sa critique de la modernité. C'est encore une fois la Grèce antique. Et elle dit, le travail, c'était l'affaire des esclaves. Et elle a été beaucoup critiquée pour cette partie-là, parce qu'à des moments, on a presque l'impression qu'elle s'y réfère comme un idéal, alors que, évidemment que non, mais elle dit, le travail, à ce moment-là, il n'était pas discuté publiquement dans l'agora, etc. C'était l'affaire privée des citoyens qui avaient des esclaves qui travaillaient à la maison. Et du coup, c'est privé dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça n'a pas vocation à être discuté publiquement par l'assemblée de la cité. Et que du coup, c'est pas une question pour elle, c'est pas une question politique. Chacun doit se débrouiller et se débrouiller de différentes façons pour assurer sa subsistance. Et ça paraît un peu fou comme ça, je pense, pour en donner l'envers, plutôt la charge un peu critique qu'il y a là-dedans. C'est qu'elle, elle dit, aujourd'hui, le travail, c'est devenu l'alpha et l'oméga de la société dans laquelle on vit, au point que on travaille plus du tout directement pour notre subsistance, mais juste pour gagner de l'argent. Et surtout, au point que la politique, c'est essentiellement une prise en charge et une science qui rend possible le fait que tout le monde travaille, qui met en place les conditions de la concurrence, qui facilite l'ouverture des marchés, qui, en gros, s'organise autour de la possibilité du travail. Et du coup, elle dit, le travail a comme inondé l'espace public, qui au départ, selon elle, ne doit pas être dédié à parler de ça, à parler du travail et de la subsistance. Bon, évidemment, c'est que le travail, en fait, construit le monde aussi. Et c'est là-dessus qu'avec Marx, il y a un gros débat. Mais bon. Et donc, pour revenir à l'action, elle, l'action, c'est ce qui est public. Si faire, c'est travailler pour vivre, manger, gagner de l'argent, etc., agir, c'est s'exprimer par des actes ou des paroles. Ici, il y a l'action et la parole sont... Enfin, elle pense, disons, l'agir comme étant la possibilité de parler et de faire des choses, enfin, ça va ensemble, elle le pense vraiment ensemble, mais de le faire en public. Et pour elle, c'est à partir de l'action qu'on peut penser la politique. La politique se situe vraiment dans ce domaine-là de l'action. C'est ce qui est fait en public, au vu et au su des autres, parmi les autres. Et cette notion de public, de pluralité, elle est vraiment très importante pour Hannah Arendt. Parce que je disais, la politique, c'est ce qui se passe entre les gens à partir du moment où ils sont plusieurs. Et comme c'est ce qui passe entre les gens, il faut qu'il y ait une espèce de pluralité de base pour qu'il y ait de la politique. Or, évidemment, un des trucs qu'elle reproche, qu'elle critique dans le totalitarisme, c'est la disparition d'un certain espace public. Comme si il n'y avait plus d'espace entre les corps et plus de possibilité d'agir et de parler en public. Et que ça, c'est un problème parce que ça fait disparaître la sphère politique. Et pour elle, ça fait disparaître la possibilité même de la liberté. Donc il faut qu'il existe un espace public. Ensuite, autre aspect important de l'action, encore une fois, elle se réfère à des catégories et à des exemples très, très grecs anciens, à l'Antiquité grecque, et elle se réfère notamment à une vieille distinction d'Aristote entre praxis et poiesis. On l'a évoqué un tout petit peu par-ci par-là tout à l'heure. Et donc on pourrait dire entre faire et fabriquer. Je vais expliquer. Fabriquer, lorsqu'on fabrique, et c'est ce qu'Aristote appelle la poiesis, la fabrication, on utilise, pour le faire simple, on utilise des outils en vue d'une fin, en vue de produire quelque chose, en vue d'un but extérieur à l'action qu'on est en train de faire. Encore une fois, c'est le modèle artisanal, c'est-à-dire, ben voilà, j'ai une scie, un marteau, etc., et je construis une table. Dans mon action de menuisier, disons, il n'y a pas la table. La table, c'est le produit de mon action. Elle est extérieure à mon action. Et donc, dans le modèle de la poiesis, il y a des outils qui sont comme des moyens, une activité qui utilise ces outils et une fin qui est le produit, le résultat, le but extérieur de l'action. Et donc, pour Arendt, la poiesis, elle correspond au domaine du travail et de l'œuvre où vraiment il y a des outils utilisés en vue d'une fin. Par contre, l'action, elle correspond au domaine au modèle de la praxis. Elle est faite pour elle-même. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Lorsqu'on agit, ou qu'on parle, on ne le fait pas directement en vue d'une fin. En vue d'une fin qu'on pourrait définir comme étant l'objet extérieur de notre activité, le but ultime ou final de notre activité. Ça veut dire que là, quand je suis en train de parler, mais bon, on peut le voir plus généralement, je ne construis pas quelque chose qui est le but de mon discours. Évidemment, il y a plein d'effets qui en découlent, il y a plein de conséquences à ce dont on parle, mais il n'y a pas un objet, stable et identifiable qui est le produit de l'activité de parole. Si on agit bien, si on discute du bien, on le fait parce que c'est bien, parce qu'on y trouve du sens, et ce sens, il n'est pas extérieur à la parole ou à l'action, il n'est pas un produit qui serait le résultat de ce qu'on fait ou de ce qu'on dit, mais il se construit à même le discours ou le dialogue, à même l'action qu'on est en train de faire. On l'a fait, donc c'est le modèle de l'action vertueuse chez Aristote, on l'a fait parce qu'elle est bonne, et on ne l'a fait pas pour autre chose. Mais évidemment, tout ça a des effets, encore une fois, hein. C'est pas pour dire que je parle pour rien dire, ça a des effets, mais ça vaut en soi, disons que le but, la fin de l'action réside en partie en elle-même. Bon, et j'insiste sur ce point pour montrer qu'avec Arendt, c'est elle qui insiste en réalité et qui veut absolument essayer de sortir d'une manière artisanale de penser la politique. Et donc c'est sur ça beaucoup qu'elle critique la tradition qui la précède elle et qu'elle renvoie à Platon, et elle dit ensuite toute la philosophie politique est imprégnée de ce modèle-là, et elle tente de s'en démarquer en disant il faut plus imaginer qu'on a une matière informe, le peuple, l'être humain, etc., qu'il faut modeler avec des techniques de gouvernement, mais plutôt prendre en compte que les humains, du simple fait d'être à plusieurs, agissent politiquement. Et cela, ça leur sert à quoi ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est quasiment le plus important si on parle de l'action. Ça leur sert à manifester, à faire exercice de leur liberté et à manifester leur singularité. Ça peut paraître un peu bizarre de dire que c'est à la fois la politique, c'est le domaine de l'action publique qui se fait en commun ou au vu et au su de tout le monde. Voilà, c'est ce qui est public. Et en même temps, c'est ce qui sert à se révéler soi-même. Et elle parle... Elle fait tout un truc autour du qui, l'identité profonde, la singularité profonde de quelqu'un. En fait, c'est pas dans le travail qu'elle va se manifester, c'est pas dans l'œuvre non plus, c'est dans l'action et dans le domaine public, parce que c'est là où cette singularité rencontre les autres, le regard d'autrui, et que donc elle peut exister vraiment. c'est que face à autrui, à côté d'autrui, avec autrui, qu'on peut exister nous-mêmes réellement. Et la liberté, pourquoi ? Parce que Hannah Arendt, elle dit que l'action, c'est vraiment le domaine où on a l'occasion de commencer quelque chose, qui n'existait pas avant, et d'initier vraiment une nouvelle chaîne causale, comme elle va dire, qui peut pas se déduire de ce qui existait avant. Et donc elle dit, voilà, là il y a une possibilité de un peu de liberté presque pure, comme ça, où on peut commencer quelque chose de nouveau. Et elle insiste beaucoup là-dessus, et elle dit même dans les évangiles, c'est ça l'événement absolu, c'est un enfant est né. Voilà, quelque chose de nouveau est là, et ça a des effets qu'on ne peut pas complètement contrôler. Bon, les exemples d'actions qu'on peut donner, chez Arendt, encore une fois, c'est très grec, elle donne, par exemple, les actions des héros grecs, telles qu'elles sont racontées dans les discours comme l'Iliade, l'Odyssée, etc. Et elle dit, les héros, ils cherchent à dévoiler publiquement leur courage, leur bravoure. Ils cherchent à inscrire aussi leur nom dans la mémoire collective. C'est une dimension dont je n'ai pas parlé, mais qui est très importante pour elle, c'est que dans l'action, en faisant la politique, on crée aussi l'histoire. On inscrit la parole, l'identité et les actions humaines dans l'histoire, et donc dans une éternité, en quelque sorte. On essaye de s'inscrire dans l'éternité. Bon, vous voyez qu'elle met plein de choses dans cette idée-là de l'action. Elle donne aussi comme exemple la parole qui recherche ce qu'est le bien au sein de la cité grecque, qui est typiquement une parole qui vaut pour elle-même, qui recherche en elle-même par le dialogue, etc., la figure du bien au sein de la cité. Bon, beaucoup plus proche de nous, on pourrait dire que un des exemples typiques de ce que c'est qu'une action politique, c'est évidemment une manifestation. Bon, il y a plein de types de manifestations, mais le mot même, il indique qu'il ne s'agit pas d'abord de fabriquer quelque chose quand on manifeste, mais de se manifester. De manifester, ça veut dire de se montrer, en quelque sorte. On se manifeste, on montre qu'on est là. On est là. Comme si le but de la manifestation, il était contenu en elle-même, c'est-à-dire montrer qu'on est là, marcher, crier, gueuler, s'exprimer, etc. Il y a une certaine idée ou une certaine pratique, en tout cas, de la manifestation qui ressemble vraiment à ça. Et évidemment, il y a souvent un but qui va au-delà, je ne sais pas, faire tomber le gouvernement, obtenir le retrait d'une loi, etc., selon les différentes intentions. Mais le rapport à ça, il est quand même souvent assez lointain. La plupart du temps, ce n'est pas la manifestation qui met concrètement en place le renversement du pouvoir. En tout cas, telle qu'elle s'est instituée au XXe siècle, la manifestation, elle produit la plupart du temps pas ça. Malheureusement, peut-être. Et d'ailleurs, on a pu voir des manifestations après Charlie, par exemple, après les attentats, etc., où les hommes politiques vont dans la rue pour dire qu'il ne s'agit pas juste de faire tomber le gouvernement, il s'agit de s'exprimer en public, de montrer qu'on est là, en quelque sorte. De faire valoir une parole publiquement. Et un dernier exemple Pardon.
Est-ce que tu peux dire pourquoi, ou tu vas peut-être le dire, mais en quoi c'est un commencement ?
Eh bien, typiquement, là, il y a l'idée que, dans la manifestation, par exemple, c'est un commencement parce que ça pourrait complètement ne pas exister. C'est pas... il y a une situation et il ne découle pas de cette situation qu'on manifeste. On manifeste parce qu'à un moment, on le décide, il y a une espèce d'action, c'est là qu'il y a une vraie initiative, et qui peut être le début d'un truc. La manifestation peut... d'une manifestation peut découler plein de conséquences qui sont pas forcément prévisibles, je vais revenir un peu là-dessus après, mais ça commence quelque chose, quoi. De là peuvent découler tout un tas de choses. Et c'est un commencement dans le sens, ça aurait pu ne pas exister. C'est, là, il y a une vraie initiative, au sens de, voilà, on démarre quelque chose de, potentiellement, quelque chose de nouveau.
C'est
ça peut s'arrêter, ça peut être la seule manifestation qui je sais pas, donne pas lieu à un mouvement, par exemple. Mais de là peuvent partir des rencontres, des manifestations d'après, une répression qui donne lieu à d'autres manifestations, etc.
Du coup, ça veut pas dire que c'est un surgissement, forcément.
Non, ça peut être plus ou moins, disons, inattendu et complètement nouveau. Parce qu'effectivement, les manifestations, on voit, il y en a déjà eu. Mais à chaque manifestation, il y a quand même un événement qui pourrait ne pas être là, quoi.
Mais ça, c'est pareil avec l'heure, avec le travail, enfin, je vois pas...
Elle insiste un peu là-dessus pour dire, non, dans le travail, on est contraint. Il y a une forme de nécessité qui parle derrière. On est obligé de le faire. C'est pas comme la manifestation, on n'est pas obligé d'y aller. Il y a une détermination, un acte qui est de sortir de la sphère privée pour aller en public, qui a une forme de gratuité, en quelque sorte. On y va, on décide d'y aller, et on initie quelque chose en faisant ça. Alors que dans le travail, on est obligé de travailler pour subsister. Et donc, il y a une forme de contrainte. Et on fait tellement la même chose tous les jours qu'on ne peut pas dire qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre de là. En tout cas, elle essaie de tirer une idée de la liberté qui vienne au-delà de cette sphère-là. Mais ça a été très critiqué après. On pourra nous-mêmes revenir beaucoup là-dessus, sur le fait que l'autonomie se pense... à l'écart de la sphère du travail, de la production et de la reproduction, c'est une idée qui a été vraiment beaucoup balayée et que nous-mêmes, là, on va voir qu'on va faire un peu autrement après. Mais en tout cas, un dernier exemple que je voulais donner à partir du film d'hier, c'est la question de la gloire. Apparaître dans les balls, c'est le moment où on se révèle, où on s'inscrit dans la légende. Il y a tout un passage là-dessus où il est question de s'inscrire dans la légende et à la rigueur, à l'ancienne, quoi. Comme les héros grecs s'inscrivent dans la mémoire collective, on veut marquer de son empreinte la mémoire collective, la mémoire des maisons, etc. et devenir une légende. Et on retrouve vraiment cet aspect de publicité. Ça veut dire c'est vraiment l'exposition, la manifestation de soi. On est jugé par ses pairs. On apparaît en public, même si c'est pas le grand public ouvert à tous, mais il y a vraiment une forme d'apparition sur une scène, sur un espace, où on est jugé par ses pairs, où la rivalité, en quelque sorte, elle est encadrée, c'est pas de la concurrence économique, et on révèle une partie de soi, une partie de son génie propre, une partie de sa singularité propre. Bon, ce qui nous intéresse ici... c'est d'une part que la politique, elle n'est pas pensée à partir du gouvernement, comme une technique appliquée par des gens qui savent à d'autres gens qui la subissent, etc. Et que, et c'est là qu'on va commencer à rejoindre un peu la question de l'amitié, c'est que pour décrire cette sphère de l'action publique, Hannah Arendt, elle dit, c'est un commencement, il peut y avoir plein d'effets indésirables qui n'étaient pas désirés au départ, je fais ma manifestation et en fait il y a une répression où ça part complètement dans un sens inattendu ou je sais pas quoi, qui peut être bon ou mauvais. Et du coup Arendt, elle dit, la sphère de l'action, comme c'est la sphère de la liberté, elle est complètement, elle a un côté complètement anarchique. On initie des choses, on commence, et ensuite on sait pas forcément où ça va. Et elle dit que il y a deux rapports possibles qui sont comme des espèces de garde-fous, de conditions. La question des conditions, elle est très importante chez Arendt. Et d'ailleurs, en français, c'est conditions de l'homme moderne. En anglais, c'est human condition. Et donc, elle dit, il y a des conditions de l'action qui la bornent en quelque sorte, qui en forment comme des pierres de touche, des garde-fous qui permettent de tempérer un peu, disons, le fait que ça part dans tous les sens. Quelles sont ces conditions? Enfin, ces rapports possibles qui sont comme les conditions de l'action, c'est la promesse et le pardon. Pourquoi ? Elle dit que l'action, c'est l'expression d'une liberté qui est irréversible. On fait quelque chose, on commence, la manifestation a commencé, on ne peut pas revenir en arrière. Je ne sais pas, moi, si un massacre, une répression énorme, on ne peut pas annuler la manifestation. Voilà, ça a commencé, c'est irréversible. Et aussi, c'est incontrôlable. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on initie quelque chose, mais on ne peut pas savoir toutes les conséquences que ça a. Et donc, pour contrebalancer l'aspect irréversible, elle dit, il existe le pardon. En gros, il permet de revenir un peu, en partie, sur le passé, de passer outre certaines choses du passé, pour, sans évidemment les annuler, mais en atténuant un peu l'aspect irréversible. Ouais.
Du coup, mais c'est quoi le rapport entre la promesse et le fait que la chose soit irréversible ?
Non, là, c'est le pardon pour le moment. Ah, la promesse, ça vient après.
Ah oui,
L'irréversibilité, c'est le pardon qui la contrebalance un peu, en disant, bon, ben oui, on a fait quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière, je ne peux pas changer ce qui a été fait. Par contre, dans une certaine mesure, on peut pardonner. Après, il faut voir tout ce qu'inclut le pardon. Elle ne dit pas que ça annule les choses, etc. Mais c'est quelque chose qui a, disons, un pouvoir rétroactif sur le passé qui permet de jouer a posteriori sur ce qu'on ne peut pas changer malgré tout. Bon, il y a le pardon. Et pour contrebalancer l'aspect incontrôlable, non maîtrisable, etc., de l'action, il y a la promesse. Donc les choses peuvent toujours... J'initie une action, ça peut toujours donner complètement autre chose que ce que j'avais prévu, mais pour borner un peu ça, je peux promettre. Je peux dire, ok, on se lance là-dedans et je te promets que ça va pas donner ça. Je te promets que ça va pas partir en... je sais pas moi, en parti politique ou en... Je sais pas quoi. On peut essayer de borner l'action comme ça. Donc, promesse et pardon, chez Arendt, c'est comme deux vertus. C'est comme les deux vertus de l'action, on pourrait dire. Ces deux vertus qui sont comme des digues, un peu, qui permettent de faire en sorte que ce domaine un peu anarchique de l'action et de la liberté se retrouve pas complètement dépassé par lui-même. Parce qu'elle dit qu'il y a une fragilité inhérente à l'action humaine du fait qu'elle soit libre. Et que cette fragilité, il y a quelques trucs qui peuvent la contrebalancer, qui sont promesses et pardon, mais qui sont en fait des vertus éthiques, qui ne sont pas des grandes lois morales, qui sont des possibilités humaines, quoi, des rapports humains possibles. Bon, on peut trouver ça plus ou moins pertinent selon les exemples qu'on prend. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ces deux vertus, promesses et pardon, c'est justement des choses qui, en fait, ne s'attribuent pas vraiment à la politique. Évidemment, les hommes politiques font des promesses, mais tout le monde sait ce qu'il en est des promesses politiques. Et c'est pour ça que j'utilisais plutôt le mot éthique tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que promesses et pardon, ça a plutôt trait au vocabulaire de l'éthique, c'est-à-dire à des règles de l'action humaine qui valent essentiellement et d'abord entre amis. À qui on promet ou on pardonne des choses, c'est pas, comme elle disait Arendt dans la citation de la lettre à Gershom Schwem, c'est pas un peuple, ou en tout cas, des gens le font, mais c'est tout de suite un peu louche. En tout cas, ces mots, si on veut, là où ils résonnent le plus, c'est plutôt, justement, dans la sphère amicale, il me semble. Et donc, ça renvoie plutôt à ce qu'on peut nouer comme type de rapport humain entre amis. On peut se promettre, on peut se pardonner des choses quand il y a une forme de confiance, d'expérience, d'histoire commune, etc. Et disons, ça a peu de chances de pardonner ou de s'excuser quand on n'est pas amis. On l'a bien vu l'autre jour, le maire s'excuse pour... C'est pour ses habitants qui ont gazé d'autres personnes. Il dit « Je m'excuse pour mes habitants, pour ce qui s'est passé. » Bon, ça n'a aucune valeur, il n'y a à peu près rien qui se passe. Donc, ce que je voulais dire avec ça, c'est que... Ce que ça déploie, disons, c'est pas vraiment un nouveau rapport à l'amitié, mais plutôt une nouvelle façon d'envisager la politique complètement à l'écart de l'artisanat et de la technique politique. Et sauf qu'on entrevoit, dans cette façon d'écarter la politique comme technique de gouvernement, etc., on entrevoit que, puisqu'il ne s'agit plus de réfléchir à l'échelle d'entités politiques comme les peuples, comme elle disait tout à l'heure Hannah Arendt avec Camille, le peuple ou la masse, etc., qui ont toujours fait horreur à Arendt, parce que pour elle, c'est exactement ça qui est manipulable, gouvernable, exterminable, etc. Oui.
J'ai pas compris ton truc sur l'honneur, là. C'est juste que ça marche pas quand tu t'excuses à la place de quelqu'un, ou ça marche pas quand tu t'excuses et que t'es pas ami?
Oui, c'était plutôt pour dire ça marche pas quand tu t'excuses et que t'es pas ami.
Merci. bizarre parce que c'est pas vrai. Enfin, tu vois, genre par exemple là, les gens qui sont venus s'excuser pour ce qui s'était passé, c'est pas du tout des amis, mais en fait, ça prouve quand même que. Enfin, l'excuse, elle est plutôt valable quand il y a quelque chose qui s'est passé entre les gens et qu'il faut réparer. Mais
c'est vrai, mais pas... du coup, sur ça, on va y revenir un peu après pour essayer de voir. Enfin, Camille a déjà un peu introduit tout à l'heure l'idée qu'en fait, dans l'amitié, assez vite. Si tu l'étudies un tout petit peu minutieusement, disons, il en découle très vite d'autres rapports que l'amitié, notamment des rapports de jalousie, de haine, d'inimitié, etc. C'est ce qu'elle essayait de montrer avec l'anthropologie de Rousseau, qui disait, bon, ben, en fait, si on part des relations, ça découle sur une aliénation sociale des uns et des autres. Et donc, dans l'amitié, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas simplement... le rapport entre amis. Il y a aussi toutes les autres relations qui peuvent en découler. Mais je reviendrai là-dessus. C'est-à-dire que l'amitié, quand on se défait de la politique, quand on essaie de partir des liens qui sont là, il n'y a pas simplement l'amitié. Il y a tout un tas d'autres liens qui vont avec. Et ce que j'essaie d'introduire avec la promesse et le pardon, c'est qu'ils ont plutôt à voir avec les liens qui sont là qu'avec la politique. Qu'avec la technique qui tente de gouverner un peuple.
Mais du coup, c'est une définition très très large de l'amitié.
Oui, c'est même pas encore une définition de l'amitié. C'était juste pour dire, voyons comment, avec ce geste que Arendt elle fait d'essayer de renverser complètement toute la philosophie politique occidentale en disant, elle s'est toujours conçue comme une technique qui arrive au-dessus d'un peuple pour le façonner, le légiférer, etc. En balayant tout ça. Ce qui arrive après pour elle, essayer de penser l'action politique, c'est des concepts qui ont plutôt à voir avec l'éthique. C'est plutôt l'ouverture d'une sphère de l'éthique que une définition de l'amitié, effectivement.
Mais c'est peut-être que c'est plus une relation interpersonnelle que l'amitié.
Oui. Bon, mais l'approche de Arendt, elle reste très philosophique, au sens où elle s'attaque à la grande tradition de la philosophie politique. Ces exemples, ils sont à l'ancienne. Les exemples qu'on peut en tirer, ils ne sont pas toujours les plus pertinents. Et du coup, maintenant, j'aimerais basculer vers une autre approche qui est vraiment assez différente, avec beaucoup moins de contenu directement philosophique, mais, disons, un exemple un peu plus vivant et une incarnation qui se rapproche ou qui commence à se rapprocher plus d'une politique de l'amitié ou d'une politique qui se fait par l'amitié. Et ça, donc, c'est la deuxième partie de cette deuxième partie. C'est l'exemple de mai 68 et notamment, disons, vu à travers le prisme de Maurice Blanchot, de ce qu'il a écrit là-dessus et de l'action qu'il a menée avec une bande d'amis, justement. Bon, évidemment, il y a quelque chose d'arbitraire à tout ça, il y a plein de choses dont on aurait pu parler, mais un peu de hasard, de curiosité et de circonstances m'ont amené à m'intéresser à Blanchot et à la manière dont il a, avec d'autres, avec des amis, participé à mai 68. Donc, Maurice Blanchot, c'est qui ? C'est un écrivain et philosophe français un peu bizarre, qui est passé de l'extrême droite dans les années 30, royaliste et compagnie, à l'extrême gauche pendant et après la guerre. Et il a eu beaucoup d'influence sur le monde intellectuel français, notamment dans les années 60-70. Et disons que c'est un peu un des paradigmes des intellectuels de ce moment-là. Et peut-être qu'on verra un peu en quel sens avec tout ce qu'on va raconter. Mais là, je vais en parler sous un angle très particulier, pas le Blanchot qui est critique littéraire ou romancier, et qui écrit là-dessus, mais plutôt l'angle de sa participation à mai 68. Bon, moi, je connais seulement des bribes de cette histoire, je ne suis pas spécialiste de ça, etc. Je l'ai reconstitué surtout à partir de deux livres dont je vais parler un peu ici. Donc, La communauté inavouable, qui est un livre de Blanchot lui-même, où il parle assez peu de ce moment-là de 68, mais bon, voilà, on va en dire quelque chose. Et un livre beaucoup plus récent, qui s'appelle « Nous sommes la pègre » de Jean-François Hamel, qui est sorti là il y a 2 ans, qui est un très court livre, qui retrace les années 68 de Blanchot et sa bande d'amis, et la manière dont ils se sont impliqués au sein d'un comité d'action, le comité d'action écrivain-étudiant, dans le mouvement de mai 68. Bon, évidemment, ils participaient là à un mouvement beaucoup plus large de mai 68, qui n'est pas du tout leur fait à eux, etc. Mais qui redéfinissait complètement les codes, les manières de concevoir la politique. Dans l'exemplier, là, j'ai mis pas mal de citations. Je vais les lire à peu près toutes, je pense, mais pas forcément complètement dans l'ordre. Mais c'était plus pour qu'il y ait des traces de ça et que vous puissiez les retrouver si vous avez envie. Qui sont plus ou moins longues, etc. Bon, en mai 68, d'abord, je fais un petit passage sur les formes de l'action politique. En mai 68, le mouvement qui démarre, il démarre d'abord dans les rangs des étudiants. Mais il ne vient pas du tout d'un parti politique préexistant. Il n'est pas commandé, lancé, téléguidé par le parti qui se situe je ne sais pas où, ou le législateur, et par des forces organisées. Il vient vraiment d'un mouvement assez spontané. Et très vite, je ne m'étends pas sur mes 68 trop, mais une des formes qui va proliférer, c'est les comités d'action. Assez vite, pendant le mois de mai, enfin, tout le monde se met à créer des comités d'action. À la fin du mois de mai, il y a environ 500 comités d'action juste pour Paris et la région parisienne. Bon, c'est quoi un comité d'action? Il y a une réunion à un moment, mi-mai 68, qui essaie de définir un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça doit être un comité d'action. Bon, bah, c'est très simple, c'est des gens qui se réunissent, ils ne doivent pas être plus d'une trentaine en théorie. Ils sont souvent entre 10 et 20 pour agir ensemble au sein du mouvement. Ils mettent l'action au cœur de leur retrouvaille, disons, de leur sens collectif. Il y en a qui se forment dans les facultés, dans les lycées, sur des aires géographiques par quartier ou un peu partout, ou alors sur des thèmes un peu particuliers, comme par exemple le comité d'action écrivain-étudiant, dans lesquels on retrouve Maurice Blanchot, mais d'autres gens qu'on appelle le cercle d'amis de la rue Saint-Benoît. C'est qui? C'est, y a des noms un peu connus, Robert Antelme, Marguerite Duras, Dionis Mascolo, Maurice Blanchot, Louis-René Desforêts, et encore d'autres. Et ils se réunissent très souvent, avant déjà ce moment-là, et après encore, chez Marguerite Duras, pour discuter et vivre, s'engager politiquement, écrire des textes, etc. Ils sont tous plus ou moins dissidents du Parti communiste. Ils luttent depuis le début contre la Ve République, qui est selon eux un coup d'État du général de Gaulle, etc. Pour l'insubordination dans la guerre d'Algérie aussi. Et avec d'autres gens, pas que ce groupe d'amis-là, mais ils fondent le comité d'action étudiant-écrivain le 20 mai 68. Qui se scindent assez vite entre des fractions qui défendent un truc très syndicaliste sur la condition des écrivains, la place de la littérature, etc. Et eux, ce groupe d'amis-là, au sein du comité, ils abandonnent assez vite les visées esthétiques, littéraires, syndicalo-travaillistes, etc., pour afficher un pur soutien à la lutte et accentuer un clivage entre un refus radical du pouvoir et, comme ils disent, ceux qui ne l'ont pas encore déserté, ceux qui n'ont pas encore déserté le pouvoir. Donc tout ce qui les intéresse, c'est ça. C'est plus de défendre des conditions particulières de travail, etc., ou une identité d'écrivain, ou que sais-je, parce qu'il y en a qui se mettent à faire ça, mais vraiment de se lancer corps et âme dans la lutte et faire tout pour que les gens qui n'ont pas déserté les structures de pouvoir les désertent. Et donc ils décident de faire passer au premier plan l'action, la participation aux manifs, et ils écrivent aussi quelques tracts. En termes de forme d'organisation, ils veulent complètement court-circuiter les grandes organisations. Dans un des premiers tracts qu'ils ont écrit, ils disent « Nulle organisation ne saurait représenter seule l'exigence communiste ». Et donc, évidemment, c'est adressé au Parti communiste. Ils refusent complètement la défense de causes particulières. Et d'ailleurs, ils sont même contre la figure qu'ils représentent eux-mêmes, à savoir la figure des intellectuels. Ils reprennent à leur compte un des tags qui avait été fait dans les murs de la Sorbonne occupée, « Intellectuel, apprenez à ne plus l'être ». Et donc, évidemment, qu'il y a tout un défi pour eux d'essayer de se nier en tant qu'intellectuel qui passe par l'anonymat, par exemple. Ils ne signent pas de leur nom les tracts, par le fait de ne pas défendre leurs conditions, de ne pas se mettre en avant eux-mêmes comme figure d'intellectuel, etc. En termes de tradition, disons, de forme et de tradition historique, ils ont essayé de se référer un peu au... enfin, ils ont essayé de montrer que les comités d'action, c'était un peu comme la résurgence des premières sections de la Commune de Paris, des soviets de Saint-Pétersbourg, donc avant la révolution de 1917, des conseils ouvriers à Berlin et à Budapest, qui sont d'ailleurs, sous la plume de Hannah Arendt, le trésor perdu des révolutions passées. Donc Hannah Arendt aussi se réfère à ces expériences-là, qu'on appelle les expériences des conseils, comme des formes politiques exemplaires, disons. Et donc, c'est pas pour... Enfin, je veux dire, il y a un lien entre toutes ces formes politiques-là, ça se relie. Et dans certains tracts, et surtout dans certaines lettres, Blanchot et ses amis se réfèrent à ces expériences-là, des conseils, en disant que, voilà, la forme qui a été trouvée pendant le mouvement mai 68, c'est les comités d'action. Et juste pour dire un mot par rapport à Hannah Arendt, quand elle tente de redonner du sens à la politique, il y a certaines personnes qui ont dit c'est la refondation du libéralisme, c'est l'espace public où chacun peut agir et parler et dire un peu ce qu'il veut. Sauf qu'on a moins vu ces écrits sur la Révolution, des textes sur la Révolution, qui parlent du trésor perdu des révolutions passées, comme ces expériences concises qui sont parmi les expériences de démocratie directe les plus radicales. Et donc, il existe un sens moins libéral et plus conseilliste de la parole d'Hannah Arendt quand elle dit qu'il faut partir de l'action politique, etc. C'est aussi ça qu'elle dit, qu'il faut partir des gens qui s'organisent, qui parlent entre eux et qui s'organisent à une échelle, à l'échelle par exemple du conseil. Bon, avec les comités d'action, on n'a pas des conseils ouvriers comme dans la tradition conseilliste dont je viens de parler là. Mais plutôt des comités un peu multiformes, d'étudiants, d'écrivains, de travailleurs, etc. Et donc, ça c'est sous la plume de Dionis Mascolo, qui a écrit un gros ouvrage sur le communisme, et qui dit que, bon, qui est vraiment dans cette bande-là, qui fait partie de cet enthousiasme-là, et il pense avoir trouvé l'instance politique qui annonce la fin de tout pouvoir politique. Donc voilà le paradoxe dans lequel on se situe depuis le début un peu de ce cours, c'est l'idée qu'il y a quelque chose de politique qui permet de renverser tout pouvoir politique et toute définition classique de la politique. Et eux, ils disent, c'est ces comités d'action-là. Ils disent, c'est une forme révolutionnaire inédite, étrangère à toutes les organisations du pouvoir et en quête du pouvoir. C'est dans un... Mascolo, il écrit ça dans un truc qui s'appelle « Sur les comités d'action ». Une brochure, quoi. Et donc, il revendique la suspension des assignations sociales. Il dit « Jamais les étudiants n'ont agi comme étudiants, mais comme révélateurs d'une crise d'ensemble, comme porteurs d'un pouvoir de rupture mettant en cause le régime, l'État, la société. » Et donc, on voit bien que là, commence à se dissoudre complètement l'enjeu qui consistait à faire communauté. Non, il ne s'agit plus de fabriquer un État, de fabriquer une société. Puisque, au contraire, là, on a trouvé une forme, avec les comités d'action qui naissent un peu spontanément et de partout, qui dissout complètement ces échelles-là, et il ne s'agit plus de fabriquer ça. Marguerite Duras... non, d'abord, il y a une citation de Blanchot que j'avais mis dans un texte qui s'appelle « Mais, révolution par l'idée ». Non, pardon, c'est ça, la citation de Blanchot, que c'est la citation que je viens de vous lire, où les comités d'action sont porteurs d'un pouvoir de rupture qui met en cause le régime, l'État, la société, etc. Et Marguerite Duras, elle parle d'un refus sauvage qui lie ces comités d'action-là, ces gens-là, ces bandes d'amis ou de travailleurs ou d'étudiants. Et ce qui les lie, donc, c'est un refus sauvage à la fois du système, mais aussi des grandes organisations politiques. Et elle insiste sur le fait que ça crée une forme d'impersonnalité. Elle parle de dépersonne, de dépersonnalisation. Un peu comme on disait tout à l'heure, intellectuel, apprenez à ne plus l'être. Il faut apprendre à se défaire de son identité sociale préalable, on pourrait dire. il faut, enfin, elle dit qu'il ne faut, il faut pas insister sur les particularismes. Il prône une espèce d'éthique de la désidentification en parlant au contraire d'un laboratoire existentiel par lequel l'individu se libère de ses particularismes et de ses propriétés pour devenir une singularité quelconque dans la collectivité insurgée. Donc, je vais revenir après sur tous les paradoxes que ça pose. Hein. Je dis pas que tout ça est très simple et cohérent. Mais en tout cas, on voit des gens qui se lancent complètement dans la lutte en prétendant que ça renverse toutes les identités auxquelles ils appartenaient auparavant, intellectuels, étudiants, voilà, tout ce par quoi ils se définissaient socialement avant, disons. Et ça remet en cause toutes les organisations politiques déjà existantes. Il n'y a rien qui prend en charge cette exigence. Il parle souvent d'une exigence communiste, d'une exigence illimitée, de refus sauvage de à peu près tout. Et donc ça dissout la façon classique de faire de la politique. Bon, du coup, je vais tirer, à partir de cette forme politique un peu bizarre que sont les comités d'action, des conséquences, disons, sur deux plans, à la fois la politique et l'amitié. Bon, le rapport à la politique et au pouvoir, en réalité, on peut faire assez vite, puisque, comme je l'ai dit, il refuse à peu près toutes les formes instituées. Il y a une citation de Blanchot qui est intéressante quand même dans un texte qui s'appelle « La fin de la philosophie », où il dit qu'il s'oppose à toutes les formes politiques préétablies, etc. Et à un moment, il dit « Le parti », en parlant du parti communiste, le parti est le philosophe. Et là, il se réfère explicitement au modèle platonicien de la philosophie, en disant le modèle, soviétique stalinien, il est comme l'accomplissement, en fait, du projet philosophique, sauf qu'au lieu de mettre le philosophe tout là-haut, on met le parti. Et donc, c'est un peu ce que Camille essayait de refaire avec ce schéma-là. Et Blanchot, là, reprend vraiment ce fil-là en disant au fond, le parti communiste, il fait qu'accomplir le but, l'horizon ultime de la philosophie, en plaçant à la tête de la société et du système politique le parti communiste, c'est-à-dire un certain nombre d'idées, un idéal qui est censé être directeur pour l'ensemble de la société et qui va ensuite modeler la société à son image. Et donc Blanchot, il dit « Rompre avec le stalinisme exige de faire droit dans la pensée et dans l'action, dans la théorie et la pratique, à une négativité qui résiste à tout dépassement. » Et donc, en quelque sorte, que la porte, disons, par laquelle se dissout toute la politique dans cette pensée-là, disons, Blanchot, ses amis et mai 68, c'est pas... Et là-dedans, on retrouve des leçons, des vieilles leçons de Marx. C'est pas une idée nouvelle, c'est pas un projet qui planerait au-dessus, etc., comme on le disait au début avec Marx, c'est pas un projet communiste. C'est une négativité. Duras, elle disait un refus sauvage. Là, Blanchot, il dit une négativité qui résiste à tout dépassement. C'est-à-dire qu'on peut pas résoudre cette négativité-là. On ne peut pas résoudre cette opposition au monde, au système, aux organisations, par une nouvelle organisation qui les dépasserait, c'est-à-dire qui les engloberait en même temps en elle-même, qui les résoudrait en quelque sorte. On ne peut pas trouver la formule qui résout tout ça.
Ivan, ouais. Quand tu dis négativité, ça veut dire le refus sauvage de l'injonction à se défaire des structures de pouvoir,
Oui, c'est ça. C'est la négativité dans le sens de le refus du monde tel qu'il est et aussi des formes d'organisation politique qui prétendent s'y opposer. Et donc, il y a vraiment un esprit libertaire, anarchiste, à ce moment-là, qui a ça d'étonnant qu'il devient, presque hégémonique dans le mouvement. Il est très, très partagé. Les comités d'action prolifèrent vraiment partout, au-delà de ces quelques groupes d'écrivains, d'intellos, etc., qui théorisent ça. Ça va vraiment au-delà, quoi. Ça a une ampleur beaucoup plus grande.
Ouais. Est-ce que tu vas en parler ou pas ? Est-ce qu'ils disent quelque chose du pouvoir non institutionnel ?
Du pouvoir, quoi ?
Qui n'est pas dans les institutions, du pouvoir. Enfin, c'est parce que je je pensais à Michel Foucault, je ne sais plus. Je ne sais pas quand il écrit, mais bref, le pouvoir est partout, là. C'est ça l'histoire. Eux, ils en font quoi? Qu'est-ce qu'ils en pensent?
Eh ben, il y a justement un débat un peu entre l'approche de Blanchot de mai 68 et l'approche de Foucault. Bon, Foucault reconnaît malgré tout que voilà, ça a changé beaucoup de choses, ça a changé même lui, tout ce qu'il a fait ensuite, etc. Il reconnaît qu'il y a un vrai événement. Et à la fois, il est un de ceux qui voit dans mai 68 un truc très paradoxal où on pense s'être libéré des contraintes et avoir permis de enfin, que c'est un événement qui a permis de libérer le désir de des structures répressives dans lesquelles il était enserré, alors que lui, il va développer toute une analyse du pouvoir de Foucault. Il va développer toute une analyse du pouvoir, comme tu disais.
Tu viens de parler
de Foucault. Et dans lesquelles, justement, il dit, mais non, c'est plus compliqué que ça. Le pouvoir, il vient pas juste de structures qui répriment. Il vient de tous les discours, tous les savoirs et les pouvoirs qui s'appliquent à... je sais pas, par exemple, la sexualité dont on avait un peu parlé la dernière fois, mais ça s'applique à toutes les pratiques, et donc il se situe pas juste dans les grandes formes de la répression que mai 68 a ciblé, à savoir le général de Gaulle, le l'État un peu à l'ancienne, la bonne famille des années 50, et du coup, lui, il fait partie de ceux qui ont été un peu sceptiques sur mai 68, en disant, ben non, attention, c'est aussi, y a aussi un nouvel ethos, une nouvelle façon d'aborder la politique, l'individu aussi, qui se déclare en mai 68, qui est, ben voilà, jouir sans entrave, en fait, ça peut quasiment devenir un slogan du capitalisme. D'ailleurs, il y a plein de gauchistes de mai 68 qui ont été récupérés ensuite. Bon, bref, qui en fait une lecture, disons, un peu pessimiste, qui dit, en fait, c'est plutôt un basculement vers un autre stade du capitalisme qu'une vraie une révolte intéressante. Blanchot, lui, il s'y est lancé à corps perdu, alors qu'il était quand même beaucoup plus âgé que la plupart des étudiants avec lesquels il est allé occuper la Sorbonne et tout ça. Il s'est lancé là-dedans en disant, non, 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 il y a quelque chose de complètement fou qui se passe là, qui se joue pas tant sur... disons les revendications politiques, etc., mais plutôt sur les formes de l'action qui dépassent tous les cadres établis, et avec un peu la naïveté de dire ben, oui, non, on fait sauter tous les cadres de pouvoir, même, et ça ils insistent souvent là-dessus, même les pouvoirs qu'on serait en train de recréer nous-mêmes. C'est pour ça qu'ils développent toute une théorie, par exemple, du communisme de la pensée, où d'autres ont parlé de communisme de l'écriture qui va avec, pour dire il faut surtout pas mettre en avant des figures intellectuelles, des noms d'auteurs, etc. Il y a toute une pensée de Blanchot là-dessus, sur l'auteur, la figure de l'auteur, dont il faut essayer de se détacher. Et pour ça, il faut inventer un communisme de pensée, un communisme d'écriture, où on écrit à plusieurs voix, où on se relit, où on signe pas éventuellement, pour essayer de produire autre chose, quoi, de produire d'autres rapports. Donc ils sont quand même attentifs aux rapports de pouvoir qui existent parmi eux. En essayant de dire, voilà, il faut qu'aucune forme ne vienne les instituer, et il faut détruire tout ça, quoi. Mais, voilà, pas exactement comme Foucault le fait non plus. Donc voilà, cette négativité, c'est ça, c'est accepter aucune forme comme instance de pouvoir, même les formes d'organisation dans lesquelles on se retrouve. Et donc, on se retrouve du côté de la plèbe, la pègre, du côté de la caverne, si on veut, quoi, du côté de la multitude, et on prétend pas, voilà, sortir de ça, sortir de la caverne, etc. J'avais mis des citations qui résument un peu ça, c'est vraiment, c'est pas très compliqué. La pègre, ça c'est dans le livre « Nous sommes la pègre ».« La pègre qui manifeste à travers Paris, ou érige des barricades de fortune », se dresse à la fois contre le pouvoir qui s'exerce sur elle et contre le pouvoir exercé en son nom, ne reconnaissant la légitimité d'aucune sujétion. À rebours d'une tradition philosophique qui conçoit l'acte révolutionnaire comme un geste de fondation, cette multitude acéphale affirme sa puissance d'agir sans opérer de conversion institutionnelle de sa révolte, sans instituer un nouvel ordre après la destitution de l'ordre ancien, sans imposer de restrictions juridiques à la liberté absolue, comme si elle abdiquait sa souveraineté juridique. Je l'ai mis ça pour dire, y a quelque chose de nouveau, dans le sens où le peuple, à ce moment-là, ou les gens qui forment les comités d'action, la pègre, etc., n'essayent pas de dire « nous sommes la communauté qui va imposer une nouvelle constitution, qui va fonder un nouveau droit ». Mais juste, elle détruit toutes les formes de pouvoir existantes. « Il faut faire la révolution de la révolution », écrit Blanchot dans une lettre à Duras, juste un peu après 68. Là, je voulais en parler parce que c'est une référence qui est omniprésente en 68, et qui est Herbert Marcuse, « L'homme unidimensionnel », qui est traduit par Monique Wittig, et qui, Monique Wittig, qui fait par ailleurs, qui signe un certain nombre de tracts et de textes avec tous les gens dont je viens de parler avant. Marcuse, il dit « Le fait de pouvoir élire librement des maîtres ne supprime ni les maîtres, ni les esclaves. » Et donc tout l'enjeu, c'est de sortir, comme elle disait Camille, ce qu'ils appellent l'immémorial dialectique des maîtres et des esclaves. Et donc de ne pas refonder toujours un droit et un nouveau principe de domination. Daniel Guérin, j'ai mis la citation là, qui est un ami de Blanchot, un historien de l'anarchie, etc., et qui a participé aussi à 68, dit « Le moulin à parole parlementaire a été nié par l'arme mortelle de l'indifférence. » Une longue marche des étudiants à travers la capitale vint à passer, un jour, devant le palais Bourbon, sans daigner même s'apercevoir de son existence. Bon, après, il y a la citation de Blanchot qui revient sur le même thème. Il dit « Contrairement aux révolutions traditionnelles, il ne s'agissait pas seulement de prendre le pouvoir ou le remplacer par un autre, ni de prendre la Bastille, le palais d'hiver, l'Élysée ou l'Assemblée nationale, objectif sans importance, et pas même de renverser un ancien monde, mais de laisser se manifester, en dehors de tout intérêt utilitaire, une possibilité d'être ensemble qui rendait à tous le droit à l'égalité, dans la fraternité, par la liberté de parole qui soulevait chacun. Bon, on retrouve le motif, disons, anti-parlementaire, contre la démocratie en place, contre les formes de pouvoir en place, et donc ce que je disais tout à l'heure sur la destitution, c'est-à-dire qu'un mouvement qui n'essaye pas de fonder, de s'instituer en nouvelle légitimité, en nouvelle fondation, comme l'ont fait les révolutions jusqu'ici. Et en ça, mai 68 est, en tout cas pour la France, un exemple vraiment assez intéressant, qui a pas donné lieu à une réappropriation directe, en tout cas, par le pouvoir. Je veux dire qu'il n'y a pas eu un Front populaire après qui a mis en place des réformes. Il y a eu les accords de Grenelle, mais il n'y a pas eu une appropriation directe de cette expérience politique-là. Bon, après, voilà, c'est une lecture sur laquelle tout le monde se chamaille, tout le monde va dire « Ah, mais non, c'est un truc de petit bourgeois, machin », les autres qui vont dire « Mais non, regardez, c'est génial, bon ». En tout cas, il y a quelque chose d'autre qui émerge dans la façon de s'organiser, de sortir dans la rue et de faire de la politique. Et maintenant, sur la question de l'amitié, plus spécifiquement. Qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'amitié, maintenant, une fois que l'image ancienne de la politique s'est en quelque sorte dissoute ? Ben, d'abord, au-delà des textes, les faits, ils parlent un peu d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une bande d'amis qui s'engagent dans mai 68, fondent un comité d'action, critiquent toutes les formes de politique qui partent du haut des organisations, etc., qui affirment ne pas vouloir prendre le pouvoir, comme si, à la limite, la multiplication des groupes d'amis, des comités d'action, elle allait par soi-même faire s'effondrer la structure même du pouvoir et du système économique, parce qu'elle n'en respecte aucune loi, parce qu'elle refuse radicalement tout ça, et qu'elle elle fait exister un autre plan de réalité. Mais on peut quand même se demander comment elle va le détruire, et est-ce que c'est simplement l'amitié qui joue ici ? Je reviendrai là-dessus un peu vers la fin. Dans une lettre, encore une fois, de Blanchot à Duras, il écrit « Ce que nous ferons sera nécessairement, et comme par obligation, infime, invisible, dérisoire peut-être. » Donc dans cette idée de révolution de la révolution, l'idée que la révolution, c'est plus le grand moment de renversement très visible qui est écrit dans les livres d'histoire, etc., mais c'est quelque chose d'infime, d'invisible, de dérisoire peut-être. Par opposition aux grands partis, aux grandes ambitions, il y a la valorisation de quelque chose qui passe par des canaux beaucoup plus fins, beaucoup plus invisibles. Et donc, il me semble que c'est par là qu'une certaine forme d'amitié trouve sa place, dans cette invisibilité-là, dans cet aspect dérisoire. Parce que l'amitié, c'est justement quelque chose, c'est un lien qui est au premier abord invisible et qui a justement été considéré comme dérisoire sur le plan de la politique jusque-là. Bon, Blanchot, il parle assez peu de l'amitié directement, mais quand même un peu. Il en parle d'abord sous la figure de l'amitié du refus, dans un texte qui s'appelle « Le refus ». Les hommes qui refusent et qui sont liés par la force du refus savent qu'ils ne sont pas encore ensemble. Le temps de l'affirmation commune leur a précisément été enlevé. Ce qui leur reste, c'est l'irréductible refus, l'amitié de ce non certain, inébranlable, rigoureux, qui les tient unis et solidaires. Donc, vous voyez, c'est un truc très bizarre et qui est un motif que Blanchot ne cesse de ruminer comme ça, le fait que la communauté, elle est négative. Elle se fonde sur la négativité. On disait tout à l'heure le refus sauvage, et ici, tout simplement, le refus. Elle se fonde sur ce qui nous a été enlevé, le temps de l'affirmation commune leur a été enlevé, etc. Et donc, l'amitié qui reste, c'est l'amitié dans le refus, l'amitié de ce non inébranlable, de... La certitude, c'est qu'on s'oppose à ce qui est là. Et ça crée une forme d'amitié, une forme de solidarité inébranlable, comme il dit.
Bah, inébranlable jusqu'à que tu fasses quelque chose d'affirmatif, quoi. Si ton truc qui est en face de toi, il n'existe plus...
Bah, oui, bah, c'est tout le problème de cette communauté qui se définit par sa... par sa négativité, on se demande bien ce qu'elle va faire. Et d'ailleurs, c'est un thème que Blanchot a labouré, le thème du désœuvrement, et le fait de dire... Mais d'ailleurs, il y a une citation qui en parle un peu après, mais qui est un thème qui a couru ensuite dans toute une tradition de l'ultra-gauche, qui a repris, enfin, disons, de l'extrême-gauche, et qui a repris ce thème-là, du désœuvrement, de la communauté impossible... inavouable, inachevé, et encore ensuite chez Agamben sur la forme du désœuvrement, pour dire, voilà, en fait, on est là ensemble, mais on n'a rien à faire ensemble. Bon, c'est un truc un peu bizarre, je vais revenir un peu plus précisément dessus.
Attends, je vois pas la différence, je vois pas la différence au fond entre ça, donc une communauté qui se fonde sur un refus, l'amitié fondée sur le refus, et une autre qui se fondée sur... des conditions matérielles d'existence. Enfin, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec le problème qui avait été posé avant, qu'il n'y a pas de lien avant.
Je vais y venir, oui. D'accord. Enfin, c'est que... Ouais, je vais y venir. Okay. Bon, en tous les cas... On entrevoit un peu le mouvement, c'est en refusant toutes les formes établies, on se retrouve avec une forme de lien entre les personnes qui le refusent. Et donc, on se met à mettre en avant ce lien-là et cette forme d'organisation par petits groupes, etc. Et donc, on a une première évocation de l'amitié dans des termes très étranges. Ce qu'on aime, c'est le refus et les gens qui refusent avec nous. Mais il n'y a pas vraiment un partage positif, quelque chose de tangible sur quoi reposerait l'amitié. Et donc la communauté des amis qui se forme par là, elle est très spéciale, elle est censée exclure personne, et c'est comme une forme jamais vraiment fixée, jamais déterminée par une identité précise. Blanchot et ses potes, ils aiment tout ce qui peut les anonymiser, les invisibiliser, et ils disent que l'amitié, c'est vraiment quelque chose qui se forme par la lutte, dans la lutte, et qui est toujours... sur la base du refus radical, ouverte un peu à tout le monde. À ce motif-là, très bizarre, de l'amitié du refus, de l'amitié négative, etc., s'ajoute la question de la communauté, qui du coup est un peu en décalage par rapport à l'amitié, mais qui la rejoint par plusieurs côtés. Blanchot, il développe souvent l'idée que qu'un être seul se suffit jamais à lui-même, pas seulement du point de vue des besoins, mais aussi du point de vue du sens, et du point de vue notamment de la mort. Comme si on était par essence incomplet, il dit « ma conduite avec mes amis est motivée. Chaque être est, je crois, incapable à lui seul d'aller au bout de l'être. Chez Bataille, qui reprend, Georges Bataille donc, auquel Blanchot se réfère souvent, « Si je veux que ma vie ait un sens pour moi, il faut qu'elle en ait un pour autrui. » Donc l'idée que le sens de la vie même nécessite un ami, nécessite autrui, nécessite une communauté pour se construire. Et je disais, le rapport au sens et le rapport à la mort, pourquoi le rapport à la mort, c'est un peu décisif dans cette affaire ? Parce que Blanchot, il reprend ça à un penseur qui s'appelle Emmanuel Lévinas, je ne vais pas rentrer dedans, mais il dit que l'autre, et en particulier l'ami, c'est la personne qui peut prendre la responsabilité de ma mort, c'est-à-dire en partie me décharger de l'angoisse et du fardeau que constitue pour moi l'attente, l'angoisse de la mort. Bon, pour les gens qui étaient là l'an passé au cours sur Heidegger, et ici Blanchot il reprend explicitement ce thème-là, Heideggerien, disons l'horizon de la mort et de l'angoisse de la mort, il est complètement constitutif de l'existence, et il n'y a que la relation à autrui, et ça il le reprend du coup plutôt à Lévinas, qui peut nous en libérer de cette angoisse permanente. Et donc l'amitié, elle acquiert un sens à un niveau existentiel là, du sens de la vie, mais aussi du rapport à la mort, qui est très très important pour Blanchot. Et en passant, ça c'est pas juste un motif sur lequel eux tripent et qui est complètement, disons, spécifique au XXe siècle ou à cette pensée-là. Je reviens sur ce qu'elle disait tout à l'heure Camille par rapport à Hobbes, sur le rapport à la mort. En fait, c'est évident, enfin c'est sûr qu'il y a un rapport entre la politique, la communauté et le rapport à la mort. Hobbes, il fonde la communauté souveraine et le pouvoir souverain sur la peur de la mort. À la fois la peur de la mort dans l'état de nature, la peur de qu'on puisse toujours se faire tuer, et la peur de la sanction du souverain. Et donc il échange cette peur de la mort contre un sentiment de sécurité, en quelque sorte. Vous avez des textes d'Alain qui disent la même chose. La politique se fonde à partir du moment où des gens ont peur de s'endormir sans sécurité, sans des gens qui veillent sur eux, parce qu'ils ont peur de se faire tuer dans leur sommeil. Et donc, la peur de la mort, l'insécurité, est l'explication, disons, de l'édifice politique. Donc la communauté, la communauté politique, elle est toujours prise en charge de la question de la mort, elle est toujours une tentative de faire face à ça aussi. Sauf que chez Hobbes, elle la remplace par un affect sécuritaire qui refoule en quelque sorte la question de la mort. Elle dit « Avec moi, vous mourrez pas, ou vous mourrez moins, ou vous mourrez plus tard. Vous mourrez et vous vivrez plus tranquille. » Mais cette communauté-là, elle parle plus de la mort, elle fait plus face à la mort, elle prend pas en charge la question de la mort, elle lui fait pas face. Et du coup, inventer d'autres communautés, c'est, je pense aussi ça, c'est vraiment forcément inventer d'autres rapports à la mort. Et Bataille et Blanchot étaient obsédés par cette question-là. Et du coup, le fait que la communauté, c'est une façon de s'engager face à la mort, à la vie, à la mort, pouvoir mourir ensemble et en tout cas prendre en charge cette question de la mort. Bon, on pourrait développer d'autres choses là-dessus. Platon dit « philosopher, c'est apprendre à mourir ». Si le philosophe, c'est celui qui fait la politique, c'est une prise en charge de la question de la mort. Et la République se termine par le voyage des âmes après la mort. Enfin bref. C'est un motif qui est très important, je voulais juste insister là-dessus, et qui du coup se retrouve dans l'amitié chez Blanchot. Bon, les limites de tout ça, c'est que évidemment tout n'est pas aussi simple. En réalité, dans leur bande d'amis, là, ils théorisent quelque chose de bien plus bizarre que l'amitié politique, comme j'essaie un peu de le dire. Ils parlent notamment sous la plume de Mascolo, du fait que dans ces moments-là, des comités d'action et d'engagement, d'enthousiasme politique, on devient étranger à soi, à tous, à l'amitié même. On s'oublie pour participer aux rêves et aux désirs d'une seule exigence commune à tous, l'exigence révolutionnaire illimitée. Et donc vous voyez là comment en fait, derrière les formes, les petites formes de comités d'action affinitaires qui surgissent un peu partout quand on refuse toute la politique, surgit quand même une exigence révolutionnaire illimitée qui est en fait qui n'a pas de contenu positif, qui est le refus radical, mais où on se rend étranger à soi, à tous et à l'amitié même. Mascolo, il dit aussi, Il parle de leur groupe en disant non pas un groupe d'amis politiques ou de camarades, non pas une cellule enracinée dans une catégorie de travail où on a lieu, non pas une organisation, mais un microcosme du peuple. Et donc là revient la référence au peuple, et non plus, je sais pas moi, à la bande d'amis, mais pas au peuple au sens où on le représente, où on le modèle, où on le dirige, mais au sens où on l'est, où on fait partie, où on est une partie du peuple en acte. Et cela, potentiellement, à plein d'endroits différents, on est le peuple en acte, on est la multitude et le peuple au moment où ils fusionnent et où ils se donnent leurs propres règles d'action. Juste une citation de Blanchot, il dit « Qu'en est-il alors de l'amitié ? Amitié, deux points, amitié pour l'inconnu sans ami. » Vous voyez, c'est très bizarre cette forme d'amitié. C'est pas du tout l'amitié préalable qui existait là, qui est, disons, le socle sur lequel on va se fonder pour, je sais pas, se lancer corps et âme dans mai 68. C'est l'amitié pour l'inconnu sans ami. C'est l'amitié pour le moment où on va pouvoir rencontrer tout un tas de gens inconnus qui vont se greffer à cette exigence révolutionnaire illimitée. Mai 68 a montré que sans projet, sans conjuration, pouvait, dans la soudaineté d'une rencontre heureuse, comme une fête qui bouleversait les formes sociales admises ou espérées, s'affirmer par-delà les formes usuelles de l'affirmation, la communication explosive, l'ouverture qui permettait à chacun, sans distinction de classe et d'âge, de sexe ou de culture, de frayer avec le premier venu, comme avec un être déjà aimé, précisément parce qu'il était le familier inconnu. Donc vous voyez, il y a une espèce en fait de simplification un peu des rapports dans la lutte, où on sent bien en fait l'enthousiasme des occupations, des comités d'action, où tout le monde d'un coup fait un bout de chemin avec des gens qu'il ne connaît pas du tout, et pense pouvoir mettre toutes les attributions sociales derrière, et du coup créer une nouvelle amitié sur cette base-là, sur cette base de l'enthousiasme, du mouvement, etc. Et quand je disais tout à l'heure, chez Mascolo, il dit, voilà, on est étranger à soi-même et à ses amitiés, etc., et on devient une partie même du peuple, le peuple qui existe en acte. En fait, on retombe sur un schéma très rousseauiste, ici, parce que chez Rousseau, il y a vraiment cette idée que le peuple peut exister en acte, peut se rassembler. Donc c'est l'assemblée qui donne les lois, etc. Mais c'est aussi des moments comme la fête où le peuple se rassemble et fait communauté. Il y a vraiment un corps collectif, des affects qui traversent tout le monde à ce moment-là, etc. Le peuple existe en acte dans les moments de fête chez Rousseau. Et là, il y a un peu...
C'est la
il y a un peu l'idée que dans ces périodes de mouvement là, dans ces périodes d'enthousiasme, etc., le peuple aussi peut exister en acte. C'est un genre d'opération de communion qui est vraiment la même que chez Rousseau. Bon, je passe un peu sur la suite, ça revient sur ce paradoxe-là sur lequel on tombe, qu'à la fois, on a l'impression que c'est plein de communautés, d'amis, et c'est un peu ce qui se passe, effectivement, qui se mettent à faire de la politique en partant de leur petit noyau, etc. Et à la fois, eux, ce qu'ils théorisent, c'est un truc beaucoup plus large, une amitié beaucoup plus ouverte, beaucoup plus qui naît beaucoup plus de la lutte qu'elle ne lui préexiste, etc. Et donc, une des limites de ça, si on peut dire, c'est que tout se passe comme si les amitiés au sens normal, les liens qui existent avec les liens forts qui existent avec les gens avant la lutte, etc., s'éclipsent au nom d'une amitié plus grande, mais moins définissable, plus floue, celle de la cause, de l'exigence illimitée. Et en fait, cette idée me semble quand même assez limitée. Effectivement, ça doit fonctionner assez bien dans les moments d'enthousiasme où on fait un bout de chemin avec plein de gens et y a une espèce de... Il y a indéniablement une espèce de camaraderie ou d'amitié, d'amour qui circule dans ces moments-là. Mais En même temps, c'est ce qui fait aussi retomber dans des rapports très militants, c'est-à-dire où, en fait, on donne tout, on renie tout, comme disait Mascolo, au nom d'une exigence révolutionnaire illimitée, au nom d'une cause qui est celle du refus total. Et d'ailleurs, après 68, vont fleurir plein de critiques du rapport militant et sacrificiel à la politique, justement, qui privilégie les relations de lutte aux désirs et aux relations antérieures. En quelque sorte, c'est comme si on avait remplacé la scission rousseauiste là, entre le citoyen qui exprime une volonté générale et l'individu qui doit se plier au citoyen qu'il est lui-même, en un sens. Donc dans chacun, il y a cette scission qui existe entre citoyen et individu. Et bien là, on l'a juste remplacé par la scission entre la lutte, disons la cause, l'exigence révolutionnaire illimitée, et la vie qu'on menait avant ou qu'on mène à côté ou par ailleurs. Et moi, il me semble que justement, là, ce qu'on va essayer ensuite de faire valoir, c'est une amitié qui tente de faire exister encore autre chose où on ne renie pas ce qui existe par ailleurs. On ne renie pas on se rend pas étranger à soi-même. Et où n'existe pas, du coup, la scission entre la lutte et la vie, les amis de la lutte et les amis de la vie. Bon, avant de faire un pas de plus, je précise deux choses. C'est que d'une part, même si dans cet exemple-là on conserve un rapport assez étranger à soi-même et assez, assez bizarre finalement à l'amitié, il faut reconnaître que ça fait complètement exploser les modèles préexistants et on peut se demander à ce stade si on peut toujours parler de politique. Il faut commencer à poser cette question-là, puisque Blanchot il écrit même contre, à la fin 68, contre l'organisation et la coordination des comités d'action. C'est une grosse question à ce moment-là. Bon, il y en a 500, il y en a partout en France. Est-ce qu'on fait des réunions de coordination? Et on essaye quand même d'aller un peu ensemble quelque part. Il lui dit non, même ça, ça va reproduire des rapports de pouvoir, il faut s'en méfier. Non, tout le monde doit faire ses trucs dans son coin et ça va, de façon infime, invisible, détruire le tissu même du pouvoir et de la politique et du monde tel qu'il existe.
Tout le monde dans son coin, c'est chaque...
C'est les comités d'action. Et donc on peut se demander ce qui reste de la politique quand on se retrouve à très petite échelle, par affinité, et qu'on cherche même plus à coordonner ces petites échelles au-delà. D'autre part, évidemment là c'est un coup de projecteur précis sur 68, autour de Blanchot et ses amis, mais il y a plein d'autres choses en 68 qui contribuent à redéfinir complètement le sens de la politique, en particulier les luttes féministes, homosexuelles, la multiplication de plein de communautés rurales, etc. Plein d'autres rapports à la politique qui émergent à ce moment-là. Et pour donner juste un exemple d'une autre approche, parce que je suis retombé dessus hier et que je trouve ça assez exemplaire, une autre approche dans les années 70 qui, en détruisant la politique classique, se retrouve avec le concept, le mot d'amitié pour essayer de penser comment faire autrement. C'est un débat qui a existé dans les années 70 aux États-Unis, dans le mouvement des femmes, entre autres sur la question de l'organisation. Et donc il y a une brochure qui s'appelle « La tyrannie de l'absence de structure », écrite par Jo Freeman en 1970, où elle dit « Bon voilà, il faut que le mouvement des femmes se structure, parce que là, il y en a plein qui ne peuvent pas s'y rapporter, notamment celles qui ont des enfants, qui ont des horaires fixes, elles ne peuvent pas se rapporter à des discussions dont on ne sait pas vraiment chez qui ça a lieu, quand, etc. Ça demande trop de travail, d'informations, on en a déjà trop comme ça. Il faut structurer le mouvement, clarifier, se donner des cadres un peu plus clairs, etc. » Bon, c'est pas d'elle dont je veux parler. C'est plutôt d'une brochure qui vient la critiquer, d'une femme qui s'appelle Kathy Levine, dans une brochure qui s'appelle « La tyrannie de la tyrannie ». Elle répond vraiment à cette brochure point par point et la réponse est beaucoup moins connue mais beaucoup mieux que la première brochure et beaucoup plus marrante et beaucoup plus intéressante. Et elle dit au contraire non, il n'y a pas du tout besoin de se structurer, c'est vraiment une erreur politique de faire ça. Elle écrit « Plutôt que d'appeler à remplacer les petits groupes par des groupes structurés plus grands, nous devrions nous encourager les uns et les unes à rester dans nos petits groupes non structurés, qui reconnaissent et prônent la valeur de l'individualité. L'amitié, bien plus que toute thérapie, soulage immédiatement les sentiments d'insatisfaction personnelle, et la révolution devrait être construite sur le modèle de l'amitié. Bon, il y a tout un rapport à l'individualité, etc., qu'il faudrait creuser et développer un peu plus. Mais enfin, on voit bien que, très explicitement, quand il s'agit de refuser la structuration politique sur le modèle très léniniste proposé par Joe Freeman dans sa première brochure, « La tyrannie de l'absence de structure », eh ben, qu'est-ce qui vient à la place ? C'est non, il faut laisser les groupes d'amis s'organiser, et la révolution devrait même être construite sur le modèle de l'amitié. Donc on retrouve vraiment le schéma qu'on essaie de mettre en avant depuis le début. Je cite juste, parce que je ne peux pas m'en empêcher, un autre moment de cette brochure-là, où elle dit « il faut vraiment inventer un autre rapport à la politique ». Malgré nos efforts pour nous dissocier et renier la gauche masculine, nous avons néanmoins notre propre énergie. Les hommes tendent à s'organiser de la même manière qu'ils baisent. Une pulsion brusque et hop, emballé, c'est pesé. Les femmes devraient construire le mouvement de la même manière qu'elles font l'amour. Par étapes, s'impliquant durablement, avec une endurance sans limite, et bien sûr, de multiples orgasmes. Bon, voilà, je voulais pas gloser Milan là-dessus, mais c'est juste pour dire que... on retrouve vraiment la structure du cours, c'est-à-dire on casse une certaine idée de faire de la politique et on se retrouve avec, non pas des structures alternatives, mais le modèle de l'amitié et une façon complètement différente de penser les rapports politiques. Oui.
Dans la première phrase que tu as citée, là, l'amitié soulage, on pourrait quand même se demander qui soulage qui en amitié. Enfin, c'est un peu bizarre, je trouve, comme manière d'évacuer la question... Enfin, tu mets d'un côté la structuration du côté du léninisme et de l'autre côté la non-structuration du côté de l'amitié. Enfin, je sais pas, je trouve ça.
C'est elle qui fait ça, hein, c'est pas moi.
Oui, mais toi, t'as dit la deuxième brochure est bien mieux que la première brochure.
Ben, moi, je trouve qu'elle est bien mieux parce que. Mais c'est, je voulais pas rentrer forcément dans ce débat entre les deux, mais. Mais tout simplement parce que la première, elle prend un point de vue au fond très politicien. Elle dit qu'il faut choisir nos représentants, il faut aller parler aux médias, il faut être efficace politiquement, et pour ça, on a besoin de structures, de cadres pour pouvoir recruter plus, etc. Donc c'est vraiment un point de vue qui fait de la politique classique. Au fond, qui dit qu'il faut qu'on devienne un parti structuré avec des bureaux, des horaires, des cadres, et voilà, une bureaucratie interne, quoi. Et la deuxième, elle a un côté vraiment plus marrante parce qu'elle dit... Non, attention, là, on est en train de se calquer sur la manière dont les hommes font la politique, qui est d'essayer de prendre la place sur l'espace public et de renverser les choses par l'audience, les médias, l'espace public institué, etc. Et du coup, elle propose autre chose, quoi. Moi, je la trouve plus marrante. Après, oui, c'est mon avis personnel. Mais d'un côté, il y a... Bon, bref... Bon, et ça nous fait arriver à la dernière partie. Et sous de la question, est-ce qu'on l'a fait tout à l'heure ou est-ce qu'on l'a fait maintenant ?
Il y a Samir qui nous demandait de les prévenir en cuisine 10 minutes avant qu'on ait fini.
Ok. Si
j'avais l'avantage, j'étais plutôt disposé à...
Tout à l'heure, il m'a dit qu'on pouvait reculer. Ça dépend plutôt de vous. Est-ce que...
Combien de temps ?
Eh ben, je pense qu'il y en a pour une bonne demi-heure encore.
Et après, il y a la même chose.
Ok. Ben allez, on va leur dire qu'on mange.
On va parler 5 minutes et
après. Ok. Oui, après s'il y a des questions, on peut aussi faire quelques questions maintenant et. Tu vois ce que c'est, non?
Non, on va vous regarder. mais du coup, vous décidez quoi?
On mange maintenant.
Ouais, bonne idée.
On mange. Est-ce que pour un coup, c'est pas toi?
Non, mais ah, c'est pas obligé. Ouais.
Je vais poser une petite question sur la narine, l'histoire de la
liberté. Par contre, du coup, les gens qui veulent plus discuter, il y a moyen de, d'aller en bas. Et s'il y a des questions.
Comme je disais, je reviens sur Hannah Arendt, c'est, ça revient un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, sur l'histoire que l'action c'est une possibilité de liberté qu'on peut commencer de quelque chose de parfaitement nouveau. Et je comprenais que l'explication marchait assez bien avec le travail, mais je trouve qu'avec l'œuvre, du coup, c'est moins pertinent de dire, mais en fait, allez, si l'œuvre c'est, peut être aussi fabriquer une table, fabriquer une maison, ça peut être quelque chose de vraiment nouveau et pour le coup d'assez. Enfin, tu peux quand même exprimer une certaine forme de liberté qui peut aussi. Exprimer là-dedans, quoi.
Sauf que l'autre objet de différencier les deux, c'était que l'œuvre avait son objet extérieur à l'action que tu fournissais pour réaliser ça, alors que l'action était son objet existait en soi pour le fait de faire une recherche.
Mais après, c'est des choses qui. Enfin, c'est des catégories qu'elle, elle essaie de creuser qui tiennent pas complètement sur tous les points. C'est un peu des grandes. Elle essaie de dire, voilà, là, aujourd'hui, pourquoi elle essaie de faire ça, de distinguer ces trucs-là malgré tout, même si ça tient pas complètement et que tu pourras toujours trouver des trucs qui passent en fait les uns dans les autres. C'est qu'elle dit, aujourd'hui, tout a été homogénéisé sous le modèle du travail. Tout est une activité, enfin tout tend à devenir une activité productive et la politique est même pensée comme ça. Et le travail est devenu la valeur ultime. Et elle fait tout un parcours en disant on est passé de le travail qui fonde la propriété à le travail qui fonde la richesse à le travail en fait qui construit l'être humain. Et ça, c'est Marthe. Et donc son chapitre sur le travail est très critique sur Marthe. Il dit le travail est tellement partout qu'aujourd'hui on gagne à faire des distinctions pour essayer de. Tirer quand même des fils un peu différents pour montrer que non, il n'y a pas que ça, quoi.
Oui, mais est-ce que en faisant ça, est-ce que le truc du commencement, c'est un peu le point central de tout ce qu'on a posé. Et du coup, en faisant de l'action, le truc qui commence par soi-même et tout ça, elle fait pas un peu l'histoire des grands hommes, l'action qui... comme s'il n'y avait pas de travail derrière, comme s'il n'y avait pas...
Si, clairement, je pense que c'est une des critiques qui lui a été beaucoup faite d'ailleurs. C'est.
Ouais, c'est un peu comme si elle.
Mais après, elle dit que ces trois choses-là vont ensemble, que tu peux pas. Pas juste. Je sais pas, agir politiquement sans. Travailler.
Parce qu'on dirait que ça avait quand même un peu le travail, forcément ingrat, la satisfaction des besoins, un truc inintéressant. Ensuite, au-dessus, t'as un peu l'œuvre, tu crées quelque chose, mais quand même, tu restes dans un truc matériel ou je sais pas quoi, et après, t'as l'action publique, tout ça, et que du coup, en fait, c'est comme si l'action ne partait de rien, s'ancrait dans rien, même de matériel, et c'est juste un truc, alors que.
Mais.
Enfin, nous, on ne s'y pourrait pas ça, quoi.
Non, c'est sûr que sur ça, après, il y a deux choses. C'est que d'une part, c'est vrai qu'Arendt, elle prête le flanc à cette critique-là beaucoup, quoi. Et que dans tous les exemples qu'elle donne, vu que ça se réfère beaucoup à la Grèce antique, etc., eh ben, il y a quelque chose de cette espèce de noblesse-là, de la politique, qui est l'assemblée des humains, enfin des hommes, à l'agora, quand ils sont déchargés de tout souci matériel, de tout ancrage. Et c'est un des trucs sur lesquels on va revenir dans la dernière partie. Et là où Marx, en fait, va plus loin que Arendt là-dessus, même si elle le reprend sur d'autres choses, mais c'est que lui, il dit, mais non, regardez, là où il y a des vrais enjeux, c'est dans la production concrète du monde dans lequel on vit. Et là-dessus, il y a lieu de s'opposer, il y a lieu de produire de telle ou de telle façon, et pas juste de produire. Et par exemple, ici, dans le Capital, tous les mouvements qui ont cassé des machines à leur époque, les ludites, etc., et qui... Enfin, tout ça pour dire qu'il envisage la possibilité de construire un monde comme le vrai enjeu, disons, qu'il faudrait examiner et qui se situe à l'échelle du travail. Pour dire, il n'y a pas que l'action ou l'action politique qui compte. Lui, au contraire, il est dans un... Enfin, sa position, c'est de dire l'action comme sphère publique, politique, un peu détachée du reste, etc. C'est de l'idéologie, du spectacle et du mensonge, quoi. C'est de la superstructure, comme il dit. Et tout ça, il ne faut pas s'en occuper. Et elle essaye vraiment de faire retour à ça parce qu'elle dit, à l'inverse, là, c'est le travail qui a tout phagocyté, quoi. Et que même la politique, aujourd'hui, ne s'intéresse plus qu'au travail. Et à rendre possible le fait que tout le monde travaille, et un travail, c'est le seul objectif.
Excusez-moi, la cuisine nous appelle, il faudrait qu'on descende.
Comment ça marche ?